La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Angers et c'est reparti pour 30 minutes de Covidienne, la dernière de la semaine. Au programme aujourd'hui, une rencontre avec la compagnie Mesdemoiselles qui était en résidence au Théâtre du Quai la semaine dernière. Et Clémence reviendra également avec une nouvelle chronique féministe comme tous les jeudis. Bonne écoute à tous et à toutes, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Rencontre aujourd'hui avec la compagnie Mesdemoiselles, actuellement en résidence au Théâtre du Quai à Angers. La compagnie Mesdemoiselles, c'est d'abord une rencontre à l'Académie Fratellini, École supérieure des arts du cirque. Rencontre qui donne lieu à un premier souhait, créer un lieu. Claire Nouteau, co-directrice artistique, est avec nous aujourd'hui.
J'aimerais qu'on parle de 2009 et des Ulmes à côté de Saumur. Vous y avez imaginé un lieu de vie, un lieu de création. Comment est ce lieu et comment vous l'avez créé?
Alors l'envie, c'était d'avoir un lieu d'habitation avec plusieurs artistes et un espace où répéter, puisque les artistes de cirque ont besoin un peu de grands espaces, de pouvoir se suspendre, accrocher des agrès, avoir des ancrages au sol aussi, voilà. Donc on a essayé d'imaginer un lieu réunissant tous ces besoins et donc un lieu d'habitation. Donc on a trouvé un endroit avec deux maisons, un terrain et un gros hangar à retaper. Donc on a fait ça à plusieurs. On a habité là-bas pendant une petite dizaine d'années.
Après ça, s'y est créé le cabaret cirque avec une douzaine d'autres artistes, enfin une douzaine d'artistes en tout, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler des dîners-spectacles? En quoi ça consistait et d'où vient cette idée?
Alors cette idée, elle vient justement de ce lieu de création aux Ulmes. On avait envie de partager un temps de spectacle avec les habitants autour de chez nous et de jouer aussi avec tous les artistes qui habitaient sur ce terrain. Parce qu'on était tous dans des projets différents, des compagnies différentes. Donc on a fait plusieurs dîners-spectacles aux Ulmes dans la salle de création. Et ensuite, on a décidé de sortir de chez nous et d'aller jouer sur le territoire. Et là, en partenariat avec le CNAREP La Paperie et l'École de la Carrière, on a monté un projet pour faire un dîner-spectacle sous chapiteau avec 15 artistes au plateau, 2 musiciens en live et on a fait une dizaine de dates.
Je suppose qu'aujourd'hui, le public ne peut pas y aller, mais est-ce que c'est toujours un lieu qui actuellement peut accueillir des résidences et le fait?
Oui, du coup, le lieu aux Ulmes s'appelle le Pressoir et il accueille encore en ce moment des compagnies en résidence toute l'année. Voilà, les gens ont juste à envoyer leur dossier de création, leur disponibilité et puis et la porte est ouverte à tout le monde. Voilà, et il y a une dizaine de couchages pour les artistes qui viennent en résidence. Il y a une cuisine, voilà. Il y a une maison à disposition pour les gens et la salle.
En lisant les présentations de vos spectacles sur votre site et en voyant les vidéos, on remarque qu'il y a une recherche autour du soi, autour du temps. Tout ça exprimé d'une façon très physique, avec des corps qui se tordent, avec des personnes qui creusent dans la terre. Est-ce que le physique et l'affect, ça fait partie des pistes de réflexion quand vous travaillez? Est-ce qu'il y a vraiment cette chose entre le concret, la terre, le matériel et vos introspections?
On va dire que la matière donne du jeu. Dans Memento, on a travaillé avec un énorme tas de terre. Dans Loca, on travaillait avec un tas de vêtements. Donc ça demande au corps une implication physique importante. Donc ça donne du jeu. Ça met dans certains états aussi. Après, on est artiste de cirque de formation, donc on travaille avec notre corps à la base. Même si après, on fait du jeu d'acteur, on chante, voilà, on fait d'autres choses. Mais la base de notre travail, c'est quand même de travailler avec notre corps. Donc on fait beaucoup de théâtre physique. Et de là viennent des émotions et on raccroche tout ça à des sujets qui partent de nous souvent, de nos parcours de vie, voilà, de réflexion.
Est-ce que les arts du cirque, le cirque, c'est un art qui permet de toucher finalement à tous les arts vivants? vivant, tout mélangé, de tout exacerber d'une façon plus scénique et de tout explorer.
Pour ma part, c'est la même chose en théâtre, en danse. En musique, c'est peut-être plus compliqué, mais en tout cas, en théâtre et en danse, ça pourrait aussi. Ils le font, hein, de mélanger les arts. C'est juste que, bon, peut-être on est aérienne, alors on a plus de facilité à prendre de la hauteur, à se suspendre à un décor, à se toucher aussi. Moi, j'ai pas mal travaillé aussi avec des comédiens, et c'est vrai que des fois, il y a moins de facilité sur tout ça, mais après, je pense que c'est juste des envies, et se laisser la possibilité de... Là, pour la prochaine création, on a envie de jouer de la musique et de chanter. On n'est pas des musiciennes, à la base, mais on se permet des choses, en fait. Et c'est aussi une façon de montrer aux gens que, quand on a envie de faire des choses, faut se le permettre.
J'aurais aimé aussi connaître la place de la poésie dans vos créations, pas forcément la poésie en tant que texte, quoique s'il y en a une, oui, mais la poésie aussi en idée plus générale, parce qu'il y a quelque chose de très poétique qui se dégage de vos travaux, de vos spectacles. Est-ce que c'est quelque chose qui se dégage qui se dégage malgré vous finalement et par votre travail, ou est-ce que la poésie a vraiment une place là-dedans?
Je dirais que c'est plutôt malgré nous. C'est des images qu'on a en tête, c'est des scènes qui se construisent au gré des improvisations. Après, on écrit beaucoup nos textes, on joue beaucoup avec les mots, mais ça se fait un peu comme ça, c'est juste un détournement du réel et une vision très personnelle des choses, quoi.
La compagnie Mesdemoiselles, on sent aussi une sororité, une force particulière qui émane de votre compagnie, la force d'un groupe de femmes aussi, et donc j'aurais aimé savoir votre rapport au genre et la place qu'il a dans votre travail.
Alors nous, ça s'est un peu fait comme ça, le fait qu'on soit que des femmes. Après, on travaille aussi avec des hommes. Dans le cabaret, par exemple, on aurait pu faire un plateau que de femmes et c'était pas l'envie. Après, c'est vrai que peut-être sur des sujets, ça s'est fait comme ça. On s'est retrouvés à faire Loca, on était trois femmes. Memento, c'était la même équipe parce qu'on avait envie d'une continuité dans le travail. On a travaillé ensemble sur Loca pendant 5 ans. Du coup, on a envie de continuer ce processus-là de recherche. Donc, les hommes sont pas exclus, hein, du tout, mais ça s'est fait malgré nous un peu. Après, c'est quand même, ça reste un combat tous les jours. C'est pas si simple. Être deux femmes qui dirigent une compagnie aujourd'hui, ça nous a mis du temps de se sentir légitime, d'aller proposer notre travail, de trouver des coproducteurs, des programmateurs. Ça nous a mis quand même 10 ans. Et on s'en rendait pas compte au début que ça jouait sur ça.
Et justement, ça fait 10 ans et je suppose que vous en avez discuté entre vous, donc là on aura une porte-parole. Quand on prend un peu de recul et que vous regardez votre parcours depuis 10 ans, qu'est-ce que vous diriez de l'évolution de la compagnie?
On grandit, on apprend. Je pense que c'est comme dans la vie, en fait. C'est surtout qu'on lâche rien. Voilà. Ça reste quand même un combat de tous les jours. Et après, on apprend beaucoup de choses. Nous, dans chaque création, on se met des défis. Memento, on a beaucoup travaillé la danse. Le théâtre physique, le geste, le corps, tout ça. Ça a été une matière qu'on a vraiment eu envie de travailler. Là, ça va être la musique. Voilà, on se donne des défis aussi. On apprend plein de choses dans chacune de nos créations. Et puis après, on apprend à diriger une compagnie. On apprend à diriger des équipes.
Et aujourd'hui, c'est plus facile de se sentir légitime déjà entre vous personnellement?
Oui, aujourd'hui c'est plus facile, c'est juste une prise de conscience en fait. C'est se dire ça fait 10 ans qu'on est là, qu'on fait notre travail, qu'on joue, qu'on fait des créations, qu'on monte des gros projets avec beaucoup de gens comme les cabarets, et qu'on est là et que nos spectacles tournent.
Vous êtes actuellement en résidence avec Marlène Rosting, qui a mis en scène votre spectacle Memento. Comment la résidence se passe? Là, on est OK à Angers. Est-ce que vous préparez quelque chose en particulier? J'ai cru comprendre que ça tournait autour de la musique.
En fait, c'est une création qui va sortir au printemps 2023, où on essaie de mettre de la musique dedans, mais il y aura aussi beaucoup de danse. du cirque. Voilà, on mélange tous les arts, vous l'avez compris. Et puis le travail avec Marlène, c'est pareil, c'est un travail de fond. Elle a été là, on s'est rencontrés sur Memento, au début juste pour un regard chorégraphique, et puis finalement, ça a été quelqu'un qui a aussi eu un regard dramaturgique sur ce spectacle. Et maintenant, c'est une sorte de marraine, en quelque sorte, qui nous aide un peu à tirer les ficelles de ce qu'on a envie de dire. Voilà, qui nous aide à grandir, qui nous aide à avancer, fait danser.
Comment vous vous entourez, justement, depuis le début et aujourd'hui, et comment vous êtes entourée ?
Dans Mesdemoiselles, on a deux personnes qui travaillent avec nous, donc Clara Lerut qui est en diffusion production, on a Delphine Le Calvez qui est là à l'administration. Après, on a des gens qui gravitent autour de nous, qui nous conseillent aussi, des gens qui sont dans le milieu du spectacle, ça peut être des administratrices, des comédiens, metteurs en scène. Ça c'est l'équipe, et après sur les créations, c'est pareil. Là la musique, on travaille avec Leslie Bourdin qui est une musicienne qui intervient avec nous sur des temps de labo, avec qui on fait des arrangements de morceaux qu'on a envie de jouer, ce qu'on fait pour l'instant que des reprises de morceaux. Donc voilà, elle nous aide à arranger tout ça, on écrit nos propres textes, on essaye de placer nos textes sur de la musique. Après en danse, il y a donc Marlène, danse dramaturgie, on va travailler, on va se frotter un peu au clown, parce que dans l'équipe des quatre prochaines artistes sur la création 2023, il y a deux clowns, Claire Dosso et Laure Bancillon, et donc on fait aussi un stage labo avec Alexandre Pavlata. Voilà, on essaye quand on a besoin de travailler quelque chose, on fait intervenir des gens compétents pour nous transmettre ce qu'ils savent.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être davantage l'habitude de voir les spectacles et moins les préparations, quelle importance ça a, ces résidences et ces moments de recherche pour des artistes, surtout dans le spectacle vivant?
Les temps de labo sont très important parce que ça permet de pas avoir de pression et d'échéance, de pas être dans la productivité. Donc ça nous permet d'expérimenter plein de choses, voilà, de se dire tiens, on aurait envie de faire de la musique à quatre, et qu'est-ce que ça donne. Donc là on se donne le temps de regarder ça, si ce sera possible, pas possible en deux ans, d'explorer aussi les sujets de création. Voilà, on a quelques thèmes, on sait pas vraiment très précis, donc on fouille tout ça, on requestionne, on essaye de se créer un corpus un peu de films, de musique, de documentaires, de bouquins, voilà.
Là, ça fait un an qu'on est dans un contexte un peu particulier. Quel impact cette mise en pause de la culture a eu sur vous et sur la compagnie? Est-ce que vous avez quand même réussi à avoir ces temps de résidence sans pour autant pouvoir les présenter?
Pour nous, ça a été comme beaucoup de gens, donc l'arrêt de... On a arrêté de jouer, donc Memento a arrêté de tourner. Après, voilà, il y a toujours quelques petites possibilités de jouer, donc on s'adapte souvent. En ce moment, c'est beaucoup de sur-mesure. Voilà, les vraies créations tournent pas. Après, les résidences continuent, donc ça, c'est vrai que ça nous permet psychologiquement de tenir. Et après, diriger une compagnie, c'est aussi travailler sur la production, sur la diffusion des spectacles, donc on fait beaucoup ça là en ce moment. On monte aussi un projet de territoire sur le département 49 avec un chapiteau qui devrait tourner dans pas mal de zones rurales sur le département, autour de médiation, de diffusion de spectacles, de programmation de concerts sous chapiteau. Donc voilà, on travaille aussi sur tout ça, trouver des partenaires, on s'ennuie pas.
Au moment où on parle, on est au Théâtre du Quai, du coup, à Angers, qui est actuellement occupé comme beaucoup d'autres théâtres en France. Est-ce que tu veux t'exprimer dans un premier temps sur la situation de la culture en France, et puis aussi surtout par rapport à cet élan d'occupation qui là se passe au moment où on parle au Quai?
Je pense que ça permet en tout cas de montrer qu'on est toujours là, qu'on n'est pas chez nous dans nos canapés à attendre que ça passe. Donc ça, c'est très important que les gens sentent la présence des artistes tous les jours. Après, voilà, c'est une action communauté auquel nous, on participe pas, parce qu'on est en résidence, mais c'est bien que ça existe. Voilà, après, j'espère qu'on va surtout sortir très vite de cette crise sanitaire qui, je pense, embête vraiment tout le monde.
Et justement, si on ferme un peu les yeux, qu'on croise les doigts et qu'on se dit que ça va vite être remis en route, qu'on oublie ce contexte sanitaire et que là, demain, le couvre-feu est levé, où est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va pouvoir vous voir normalement pendant l'été, par exemple, présenter des spectacles, ou est-ce qu'on doit attendre 2023 ?
Alors là, les prochaines dates qui sont prévues, c'est Saint-Denis, mi-avril, donc on attend de savoir si Paris sera confiné, pas confiné, voilà. Après, on joue à Tournu, donc ça c'est plus en Bourgogne, et puis au mois de juin, on sera à Beaugés, si je me trompe pas, donc ça c'est le département 49, et celle d'après, je sais pas, mais il y a encore des dates qui sont prévues. Voilà, peut-être dans, je sais pas si c'est officiel, mais peut-être dans les universités sur Angers, au mois d'avril aussi.
Oui, parce que en décembre, par exemple, vous avez fait la tournée de quelques écoles dans les Mauges, si je me trompe pas. Donc aller dans les écoles ou les universités, en tout cas rencontrer un public scolaire, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude.
On n'avait jamais joué dans les écoles. En effet, on a fait une tournée dans les écoles des Mauges. C'était très chouette. On a été super bien accueillis. Les enfants avaient vraiment besoin de tout ça. Nous, ça nous a fait du bien. Et on n'avait jamais fait ça parce qu'on n'a pas de spectacle jeune public, donc on joue devant des enfants, mais c'est plutôt des publics familles. Là, les universités, c'est encore autre chose. C'est des endroits où on n'a pas l'habitude d'être programmé, en tout cas. D'avoir, nous, on a un public très large, on joue en rue, donc c'est vraiment tout public, on croise toutes sortes de gens. Donc là, ça va être encore un autre univers, si t'es universitaire.
Bah, merci beaucoup, on va vous laisser continuer la résidence et on croise les doigts pour les prochaines dates à venir et pour 2023, pour voir ce qui est en train de se tramer derrière les portes du quai, derrière nous.
Vous êtes toujours dans la Covidienne sur Radio Campus Angers et on vient d'écouter Afro Sortilegio de Jolimar. Attention, Clémence revient avec une nouvelle revue de presse féministe au programme Figaro, Pierre Ménès et Ministère de l'Intérieur. Salut Clémence.
Salut Sarah. Et oui, cette semaine, je vous propose un focus sur ces trois sujets, toujours dans le but de désinguer le patriarcat. Et vous n'êtes pas convaincus ? On va s'échauffer. Pierre Ménès, accusé d'agression sexuelle et auteur, si on a le courage de regarder d'anciennes séquences télé. Les femmes journalistes sportives ne sont pas des salopes, rappelle Marie Portolano dans son documentaire, la journaliste et l'ancienne présentatrice du Canal Sports Club. Et pourtant, les spectateurs n'ont pas tout vu dans ce documentaire. À la demande de Canal, les séquences où le journaliste Pierre Ménès embrasse de force, touche les fesses de ses consoeurs en plateau, en public, ont été coupées, tout comme les témoignages de soutien des hommes journalistes à leurs consoeurs. Et ça, ça a été révélé par le média indépendant Le Jour, qui a déjà une série de 40 articles sur le groupe Canal. Toutes ces séquences sont remontées maintenant à la surface et font aujourd'hui froid dans le dos. Pierre Ménès, l'agresseur, gracieusement invité sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, une chaîne Canal, l'a même reconnu à ce moment-là. Parce que ouais, chez Canal, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a un scandale dans le groupe avec un journaliste très pote avec le fils de Vincent Bolloré. Et bah c'est chouette, on parle de nous, on va l'inviter sur une de nos autres chaînes pour faire de l'audience. Et le site Mademoiselle le rappelle dans un article paru le 24 mars, le problème, il va au-delà de Pierre Ménès, il est systémique. C'est pour cette raison que des femmes journalistes sportives prennent la parole depuis quelques jours. Mejdaline Miri, rédac-chef des sportives, veut que ces changements portent leurs fruits pour la génération future, avec par exemple des pétitions pour le boycott des bourses Canal en école de journalisme, parce que comme bien souvent, tout commence à l'école. J'ai aussi fait un tour dans les pages du Figaro et je suis tombée sur un article en deux parties sur les pères divorcés. Trigger warning, titre sensationnaliste, sont-ils victimes d'une justice misandre ? C'est une série de témoignages de pères qui peinent à maintenir le lien avec leurs enfants. Tous appellent leur ex-partenaire « madame » avec dédain et disent leur cause oubliée par la presse « bah non les gars, on parle de vous dans le fig ». Et ce sont pourtant des pères exemplaires. Ils vont chercher leur enfant à l'école 4 fois par semaine, ils donnaient même le biberon la nuit lorsque leur partenaire n'allaitait pas. Moi je demande un tonnerre d'applaudissements pour ces poissons qui nagent. Là où c'est indécent, c'est de commencer l'article en rappelant que le 11 mars dernier, un homme de 40 ans a tué son fils de 2 ans en le jetant par la fenêtre avant de se suicider parce qu'il craignait de ne pas en obtenir la garde. Et donner la parole au président de l'asso de SOS Papa qui déclare « Les juges peuvent faire ce qu'ils veulent ». Et comme c'est la grande molle de dire du mal des hommes maintenant, cette histoire de féminicide ne va pas arranger les choses. Et tout ça, sans le relancer sur de tels propos, c'est indécent. Il y a des féminicides parce que les hommes tuent. Et avec un tel raisonnement, si les hommes n'ont pas la garde parce que les hommes tuent, bah l'asso, elle n'a plus qu'à mener un travail de fond pour prévenir ses actes. Et pourquoi les femmes, enfin, ont-elles plus souvent la garde ? Et bah c'est parce qu'elles demandent la garde dans 70% des cas. Les 30 restants, c'est 20% de résidence alternée et 10 de garde pour le père. Ça, c'est les chiffres de 2012 du ministère de la Justice. L'enquête du Figaro, on va le noter, est nuancée par l'intervention d'une sociologue à la fin qui rappelle cette réalité. On ne peut nier l'existence d'une souffrance chez ces hommes, mais ça peut se faire sans ouvrir la porte au sexisme. Et s'il y a une potentielle tendance à penser que seules les femmes sont aptes à s'occuper des enfants par la justice, il n'y a pas de souci, vous arrêtez avec vos injonctions à la maternité et les parents hétéros seront quittes. Enfin, nous tout est de retour. Le collectif a publié les résultats d'un sondage autour de la prise en charge des victimes par les forces de l'ordre. Sur 3500 interrogés début mars, 66% déclarent une mauvaise prise en charge par la police. Manque d'empathie, minimisation des faits, 56% des répondantes et répondants indiquent un refus de porter plainte ou un découragement. Des chiffres qui sont à des années-lumière de ceux publiés par le ministère de l'Intérieur en mars aussi. L'enquête a été réalisée par un audit d'après laquelle 90% des victimes de violences conjugales ont jugé leur accueil au commissariat satisfaisant. L'enquête de nous toutes est nommée « Prends ma plainte » et elle a donné lieu à une prise de parole avec un hashtag du même nom sur les réseaux sociaux, avec d'autres témoignages qui se sont ajoutés. Sur le site de La Provente, vous trouverez la version soft, AFP, simple, efficace à ce sujet, qui ne dit pas « nous toutes » dans son titre, mais une association dénonce le mauvais accueil des femmes victimes de violences par les forces de l'ordre. C'est déjà un bon début pour comprendre. Si vous voulez plus de détails sur le chiffre, il y a aussi l'article de Clément Aubrin sur Terra Fumina, publié aujourd'hui, qui va rajouter les résultats détaillés, voire les moqueries associées aux tentatives de dépôt de plainte. Et si vous voulez vraiment faire un tour sur l'enquête disponible sur le site noustoutes.org, vous pouvez retrouver ces témoignages. Ils m'ont dit que c'était rien, que la violence et le harcèlement que je subissais, c'était simplement parce qu'ils m'aiment. Madame, on ne reste pas quand ça se passe mal, et votre plainte, ça va ruiner sa vie. Mais sinon, à part ça, la justice est misandre.
C'est la fin de cette Covidienne. Merci Clémence pour cette revue de presse. Quant à nous, on se retrouve lundi pour la prochaine Covidienne. Et d'ici là, bon week-end sur les ondes de Radio Campus Angers.